Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Marlène Maurice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, un premier livre paru aux éditions Favre, Escarpé, dont nous allons largement parler bien sûr. Vous m'avez proposé de nous rencontrer à la Fondation Janada à Martigny. On a du bol avec le temps parce que c'est pas tous les jours pour ce printemps, mais on est dans les jardins de la Fondation. Pourquoi cet endroit ?
Alors pour deux raisons. La Fondation Janada, d'un point de vue personnel, c'est un lieu que j'ai énormément visité enfant. Toutes les vacances d'automne, c'était la visite culturelle familiale. Et puis les jardins, parce que là on est auprès de l'étang, juste à côté des moutons. Et puis il y a deux références dans le roman, pour moi, qui font appel à la Fondation de Janada.
Alors il y a un moment qui se passe à la Fondation de Janada, on en parlera tout à l'heure. Vous avez un parcours étonnant, Marlène Maurice, vous êtes valaisanne, du Val d'Hérin.
Je suis du Val d'Hérin, oui,
des Bolènes. Et vous en êtes parti et vous y êtes revenu. Vous êtes parti d'abord travailler dans la lointaine Suisse alémanique, dans le monde de la culture. Et y a un lien avec la Fondation Janada. On en parle toujours de façon locale, nous. Qu'est-ce qu'on dit à Zurich de la Fondation Janada ?
On en parle très très peu de la Fondation Janada. Elle est assez inconnue. Finalement, mes collègues n'en parlaient pas. C'était pas vraiment un sujet parce qu'on était plutôt sur l'art contemporain, donc c'était pas vraiment un sujet, je dirais.
J'ai raté mon truc. Moi je pensais que on allait, j'imagine quand même qu'on peut dire que c'est une institution d'importance nationale.
C'est une institution d'importance nationale, mais je dirais surtout à l'international. Elle est surtout fréquentée dans les grands tours opérateurs. J'avais accompagné à l'époque où je travaillais en Valais un groupe de Chinois d'ailleurs qui était venu voir la collection de portraits du centre Georges Pompidou, et c'était très rigolo. Oui.
Vous êtes parti, je l'ai dit, vous êtes né dans ce Val d'Hérin, vous êtes parti dans le monde de la culture. Qu'est-ce qui a délimité finalement votre parcours
Ce qui délimite mon parcours, c'est la passion toujours. Je suis mes envies. Fondamentalement, j'ai aussi beaucoup de chance, je pense, sur le chemin de les opportunités se présentent bien. Et ma mère disait toujours, toi tu gagnes tous les concours de circonstances. Mais ça, c'est une, c'est une citation de Coluche.
C'est une jolie formule.
C'est de Coluche, mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti j'ai toujours de la chance au jeu aussi, énormément. Et les étoiles s'alignent assez facilement. J'ai toujours été émue par la passion de l'art, la passion de la création aussi. Et puis j'ai fait de la musique, j'ai toujours beaucoup dessiné et écrit. Mais je me suis très vite rendu compte dans mes études que j'étais plus douée pour en parler que de le faire.
Jusqu'à l'écriture peut-être.
Mais l'écriture, c'est aussi c'est une façon de parler, je dirais, finalement. C'est de mettre des mots sur des situations. Donc je suis devenue historienne de l'art parce que j'étais plus douée pour parler d'œuvres que pour la création.
J'ai lu dans une interview ma stabilité c'est d'être instable, en gros je résume, c'est pas la citation exacte,
oui,
mais
oui.
Quand vous dites je suis passé d'un truc à l'autre, etc., et toujours avec un certain bonheur, quoi.
Toujours avec beaucoup de bonheur, mais c'est une forme de constance. C'est le fait de, alors c'est des choix de vie. Il y a des gens qui sont très courageux et très aventuriers de choisir la vie de famille, et je les admire pour ça. Moi j'ai choisi autre chose, qui est quelque chose qui est une vie plus intérieure. Alors on pourra me taxer d'égoïste, mais j'assume complètement. Au contraire, j'ai l'impression de partager beaucoup, de recevoir beaucoup et de m'inspirer beaucoup. Donc je reçois énormément.
On verra que tout à l'heure, quand on parlera du livre, qu'un des enjeux, c'est la montagne, bien sûr, mais c'est aussi en sortir, en partir, d'une certaine façon. Vous avez vécu ce moment-là où l'horizon semblait bouché, où il fallait en trouver d'autres.
J'ai toujours dit que je nourris par rapport au Valais une forme de passion. Alors le mot passion est bien choisi parce qu'il y a la joie et la souffrance.
Il y a la souffrance aussi. Ouais.
C'est à la fois cette beauté incroyable de la montagne, du lieu, mais il y a ce côté étriqué aussi par moments où ce besoin d'aller au-delà, d'aller plus loin, de voir autre chose, de voyager. Et ça, mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours.
Et vous y êtes revenu professionnellement il y a quelques années avec une ambition, celle de faire vivre un petit village, Lassage, dans le Val d'Hérin.
Oui. Alors j'ai repris une épicerie de montagne, l'épicerie du village de Lassage, et ça a été vraiment une expérience merveilleuse. Mais je dirais que j'ai beaucoup plus voyagé pendant ces 5 années à l'épicerie que tous les voyages que j'ai fait, parce que finalement, au lieu d'aller au monde, c'est le monde qui venait à moi. J'ai rencontré énormément de personnes. Je pense l'année passée, entre autres, à un randonneur qui faisait la haute route, qui venait de Kinshasa, et avec qui j'ai eu un long échange d'une heure pour finir. Je lui ai prêté les clés de ma maison, il allait prendre une douche chez moi alors que je travaillais au magasin. Le monde est venu à moi, et ça, c'était quelque chose d'incroyable, que ce soit au niveau suisse ou international, des rencontres, et puis surtout, tous les niveaux sociaux, toutes les strates de la population qui se rencontrent dans un seul et même lieu.
J'ai lu quelque part que ça pouvait aussi déboucher sur quelque chose, hein, ces expériences-là, des dialogues, et évidemment inattendus, hein, avec les gens qui vous visitent.
Bah, c'est une expérience sociologique en soi. On est confronté à tous les avis, tous les partis politiques, tous les âges. Et puis c'est assez merveilleux parce que ça donne lieu à des tas de dialogues improbables. Donc j'avais nourri pas mal de mes petits comptes d'épicière sur les réseaux sociaux, et où je rapportais finalement assez fidèlement, je dirais à 99% fidèlement, les dialogues que je vivais au quotidien. Alors parfois il y avait des clients qui rentraient au magasin, j'étais en train de finir de noter ce que je venais de retenir de la conversation précédente, et puis ça a été une source incroyable de discussions après, parce que certaines personnes revenaient avec une répartie en plus à ajouter à ce que j'avais écrit sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que j'ai senti que les réseaux sociaux pouvaient être aussi communautaires, et finalement quand on a une communauté réelle, c'est extraordinaire. Ça marche vraiment.
Il y a aussi une relation à la langue, hein, au patois.
Oui.
J'ai lu ça, vous le parlez.
Alors le patois, c'est ma langue maternelle. Moi j'ai appris, comme mes sœurs, le français à l'école. Alors évidemment qu'on a été baigné dans le français parce qu'on avait un entourage aussi francophone, pas uniquement le patois, mais mes deux parents nous ont parlé le patois des Wolaines. Et encore actuellement, j'ai énormément d'interlocuteurs, des amis, à l'époque...
Mais pas comme une langue de préservation, comme
une langue
vivante,
c'est une
langue parlée,
pour moi, c'est
la langue de la famille.
C'est une langue que je pratique tous les jours, je communique tous les jours, soit avec mes sœurs, soit avec mon père, avec des amis, des voisins. Le patois, c'est ma langue de cœur.
Et vous êtes de moins en moins nombreux. Enfin, l'image qu'on a des patoisans, hein, qu'on appelle,
oui.
ce qu'on appelle comme ça, c'est plutôt des personnes assez âgées, avec un patrimoine qui est en train de disparaître.
Bah, actuellement, mon ami le plus jeune qui le parle, il a 4 ans, Mathis, c'est encore une langue vivante, c'est une langue qui se transmet.
Il y a une tendance, hein. Alors il y a une tendance beaucoup plus marquée dans des régions d'Europe avec encore des ambitions politiques, je pense. Si je dis que
nous,
le catalan est un patois,
oui.
je vais me faire étrangler par des catalans, c'est une langue évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais enfin, il y a des tentatives culturelles, hein, de préserver en Bretagne, etc., de préserver un patrimoine. On le sent moins fort ici quand même.
Mais il est moins fort parce qu'il est encore vivant. C'est une tradition vivante, c'est pas une tradition passée où on doit aller faire de la recherche, fouiller dans des archives. Alors effectivement, il y a tout un pan du vocabulaire qu'on n'utilise plus parce qu'on n'a plus les mêmes métiers, on n'a plus, donc c'est pas une langue qui se renouvelle. Quand on va parler d'un objet moderne, on va pas inventer un mot.
On dit iPhone, non pas toi.
Téléphone, télévision pour dire la télévision,
ah,
on va
ouais.
pas inventer un terme à proprement parler. Parce qu'il y a, c'est pas un bassin qui s'auto-nourrit, mais on n'est pas encore arrivé, en tout cas dans le Val d'Airain et Wolaine, à une forme de préservation active. Parce que, alors oui, il y a des cours, peut-être plus dans le sens de l'intégration que de la préservation, dans le sens des enfants dont un des parents ou les deux parents ne parlent pas le patois peuvent suivre des cours pour pouvoir parler la même langue que les autres dans la cour de récréation.
Mais ça vient de l'État ou ça vient d'initiatives privées? J'imagine que c'est plutôt la deuxième solution.
Là, oui, bah c'est plutôt privé l'initiative pour les cours, pour les élèves. Après, ça a été aussi du fait de certains enseignants qui parlent encore le patois. Mais je pense que c'est... Bon, il y a encore maintenant des chants qui s'écrivent en patois. Je vois soit pour le chœur de l'arc-en-ciel, soit... Moi, je collabore avec différentes personnes sur des chansons en patois. C'est une langue qui peut être encore très vivante.
Il y a aussi dans votre expérience de vie et de vie à la montagne, alors ça pourrait être dans un village de plaine aussi, mais cette expérience d'écrivain public,
oui.
Écrivaine publique pour le coup.
Oui, alors c'est une chose dont j'avais toujours rêvé. C'est une pratique que je trouve merveilleuse parce qu'on met son talent ou sa plume, sa compétence, on va dire, à la disposition de personnes qui ne l'ont pas. Moi, par exemple, je ne sais pas utiliser une perceuse et mettre un tampon et pour accrocher une vis, un clou. Je demande à quelqu'un qui sait le faire de le faire pour moi. Mmh. Et puis, à l'inverse, j'ai cette compétence-là de savoir écrire dans des registres très différents qui vont de l'administratif au poétique. Et puis, c'est resté quelque chose qui s'est plutôt fait connaître de bouche à oreille. Mais c'est une activité que j'aime beaucoup pratiquer. Donc, ça va de faire une lettre de motivation pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie comme indépendant puis qui doit se reconvertir, à un discours pour un mariage, à toutes sortes de choses. Des choses graves aussi qui vont chez des avocats. Mais les gens ont des idées, peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils ne se sentent pas capables de l'écrire.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre du transclasse, d'aller vers les classes sociales. Alors moi, je fais pas de distinction entre une classe sociale qu'on va appeler manuelle et une classe sociale qu'on va appeler intellectuelle, parce que comme vous, j'ai besoin qu'on m'aide pour n'importe quoi qui a des vis, enfin qui a besoin d'avoir des vraies mains travailleuses. On a vite ce sentiment qu'il y a quelque chose de supérieur quand on se met à la disposition pour de l'intellectuel. Hein. Alors qu'on se rend compte que non, il peut y avoir aussi de la moquerie de la part d'un manuel qui va dire « Mais quoi, tu sais pas changer une roue, t'es un guignol. »
Totalement, ouais. mais c'est là que l'humain est complémentaire et qu'il forme société, c'est que heureusement, on a des compétences différentes. Je parlais tout à l'heure des personnes qui font famille et que j'admire. Je suis très heureuse que ce soit les autres qui aient enfanté et pas moi. Et dans un autre sens, il faut aussi des gens qui soient des créatifs ou qui voyagent et qui rapportent des idées d'ailleurs et qui les transmettent. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette complémentarité et finalement, très objectivement, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Typiquement, moi je vois mon père était manuel, mais il écrivait et il écrit toujours très très bien, que ce soit dans la graphie ou dans les mots qu'il choisit, un vocabulaire incroyable, très étendu, et puis un don pour la poésie, la répartie, l'humour. Alors lui, ce sera quelque chose de beaucoup plus oral, et puis de temps en temps il l'écrit, mais après, c'est une question. Il y a des gens qui sont, on va dire, qui ont atteint des niveaux d'études très élevés, qui savent écrire, utiliser un ordinateur, faire de la comptabilité, mais qui sont incapables d'écrire 3 vers de poésie.
Et qu'ils sont aussi incapables de le transmettre. Finalement, il faut être détendu vis-à-vis de la transmission, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Escarpé, c'est le nom de votre roman, le titre de votre roman, Marlène Maurice. On va y consacrer la deuxième partie de cette émission en deux mots. L'étincelle, je vais écrire un roman, pourquoi ?
Parce que le silence me semblait être un sujet extrêmement intéressant et mettre des mots sur le silence était un défi incroyable.
Bon, on va essayer de mettre des mots sur vos silences dans la deuxième partie de cette émission.